Frères et sœurs, les amis, nous voici donc arrivés au dernier dimanche de l'année liturgique 2018-2019, de cette année C. Nous avons parcouru cette année liturgique avec l'évangéliste saint Luc. Et voilà que cette année, comme toutes les années liturgiques, se termine par la fête du Christ roi de l'univers. Et comme chaque année, nous entendons, au moins dans l'Évangile, un épisode dramatique de la vie du Christ, puisqu'il est sur la croix, au moment où il va rendre son esprit à Dieu le Père. Et cela nous implique à prendre conscience qu'il s'agit d'une sorte de paradoxe. Comment peut-on parler de la royauté, du règne de Dieu, de son royaume, alors qu'il est un roi totalement déchu, rejeté par tous et sur la croix. Alors rentrons dans ce texte qui nous est offert, et s'il nous est offert, ce n'est pas pour rien, c'est bien parce qu'il y a une méditation et un message spirituel et théologique important. Et un de ces messages, parce qu'il y en a beaucoup, et celui de la question profonde qui est celle du Messie et du rôle du Messie. Pourquoi je dis ça? Parce que par trois fois retentit la même interpellation à Jésus crucifié. Si tu es le Messie, ou dit d'une autre manière, ou s'il est le Messie, si tu es le roi des Juifs, si tu es le Messie. Chacun va donc, j'allais dire, commencer entre guillemets son injure ou son adresse à Jésus crucifié en fonction de sa situation personnelle. Les chefs religieux du peuple juif attendent le Messie, l'élu de Dieu. Bon, les soldats romains, membres de l'armée d'occupation, ricanent sur ce prétendu roi. Et puis le malfaiteur, lui aussi, interpelle le Messie. Il attend donc quelqu'un qui puisse le sauver de la mort. Voilà. Trois interpellations qui portent en elles le mot de Messie et qui font écho, étrangement, au récit des trois interpellations des tentations de Jésus au désert. Hein? Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, change donc ces pierres. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Bon, ce n'est pas l'objet de l'évangile de ce jour, mais c'est important de mettre ce souvenir de l'évangile de Luc, des tentations dans le désert, en parallèle ou en synoptique avec l'évangile de ce jour. Donc, que ce soit les tentations au désert, que ce soit l'évangile que nous entendons aujourd'hui, la question de fond est donc celle du Messie, son rôle. Quel est-il ce rôle? Est-il un chef politique? Est-il un chef religieux? Quelqu'un qui a tout pouvoir d'arranger? Un roi tout-puissant? Bon, c'est peut-être ce que se disaient les personnes de l'époque. Mais on peut être très déçu, et ils l'ont été certainement à la réponse. Jésus ne répond en rien, évidemment, à ce type de schéma. Il est condamné, crucifié, comme un vaurien, comme un malfaiteur, même s'il n'a pas fait grand-chose apparemment. Il est tout le contraire d'un roi et d'un roi de l'univers. Et c'est là le paradoxe, justement, dans l'Écriture qui nous invite à aiguiser notre intelligence à bien comprendre et accueillir cette fête du Christ au roi de l'univers. Alors, dans l'épisode des tentations de Jésus au désert, vous vous souvenez, Jésus avait pris comme argumentation et comme réponse au tentateur, il donnait des citations de l'Écriture. Et l'Écriture était, si je puis dire, la référence pour résister aux tentation que lui présentait le tentateur durant sa vie terrestre. Là, c'est tout à fait le contraire. Sur la croix, au contraire, Jésus ne répond pas, garde le silence. Et je peux vous dire que depuis tant d'années où je lis la parole de Dieu, je la réfléchis, enfin j'essaye de la réfléchir, de l'accueillir telle qu'elle est, le silence de Dieu, le silence de son Fils, le silence du Christ m'a toujours posé question. Mais nous avons peut-être ici déjà l'ébauche d'une réponse à ce silence. Jésus ne répond rien. Il ne dit rien à toutes ces provocations. Et pourtant, l'interpellation du mot Messie, Jésus le sait, il sait qu'il est le Messie. Et que ce Messie est celui qui sauvera le monde. Donc, il devrait bien se sauver lui-même. Mais là, c'est notre logique à nous, notre logique humaine. C'est la logique de ses interlocuteurs, de ceux qui le provoquent. Et c'est de cela, du reste, qu'il va mourir. Il meurt de n'avoir pas été conforme à la logique humaine, à leur logique, à la logique de ses interlocuteurs, à leur propre idée du Messie. Et voilà pourquoi le Seigneur garde le silence. Hein? Voilà pourquoi il garde le silence. Parce que le Christ obéit à une autre logique que la logique de ceux qui le provoquent. Logique purement humaine. Alors que Jésus, surtout à ce moment dramatique de sa vie sur la croix, sait que c'est Dieu seul qui sauve. Il attend son propre salut et le salut de Dieu seul. Du reste, le nom de Jésus veut dire c'est Dieu qui sauve. Et donc il n'a rien à dire, il n'a rien à ajouter de plus, et il n'a rien à répondre. Il attend. Non pas dans un silence attentiste, hein, j'allais dire en baissant les bras, pas du tout. Il attend dans un abandon total à Dieu, qui ne l'abandonnera pas à la mort. Et c'est là que toute sorte de tentation est surmontée. Il est resté fidèle à sa mission, il ne s'est pas dérobé. Aux conséquences, il est livré là aux mains des hommes, il n'a rien à répondre. Par contre, ou en revanche, cet épisode des injures que nous lisons dans l'évangile de Luc est précédé de paroles de Jésus qui peuvent nous éclairer aussi sur le plan spirituel. Luc a rapporté cette parole de Jésus sur la croix, et je le cite, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parole humaine et divine, puisqu'il est l'homme-Dieu. Au moment où le pardon qu'accorde le Christ à ses bourreaux, c'est le pardon même de Dieu. Et Jésus, homme et Dieu, c'est que c'est Dieu qui pardonne, qui réconcilie, et il nous suffit donc d'accueillir cette réconciliation. Eh bien, cette attitude de celui que nous appelons le bon larron, qui n'est certainement pas un enfant de cœur, ou qui n'a pas été un enfant de cœur durant sa vie, ça c'est bien certain, il l'appelle au secours, ce bon larron, dans une prière très simple, pleine d'humilité, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras inaugurer ton règne. » C'est à la fois déconcertant mais très beau. On a envie de dire que ce bon larron qui représente notre humanité en recherche de réconciliation, on a envie de dire que ce bon larron a tout compris. Et la réponse du Seigneur est à la fois désarmante et tellement belle, tellement douce, tellement délicate. Amen, je te le déclare aujourd'hui. Avec moi, tu seras dans le paradis. Ah, ce mot aujourd'hui, qui est l'attitude même de la vérité, de l'humilité de cet homme, qui est crucifié en même temps que le Seigneur. C'est aujourd'hui, ce mot est important parce que c'est, j'allais dire entre guillemets, l'aujourd'hui du salut. Pour ce bon larron qui représente cette humanité et ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres pécheurs en attente de réconciliation. Il nous revient, pour terminer, au-delà des tentations au désert dont nous avons fait référence rapidement tout à l'heure, on se souvient d'un autre homme, le premier homme, celui qui était dans le jardin d'Éden, le lieu du bonheur, où cet homme avait été créé pour être le roi de la création. Lorsque Dieu lui dit « domine la terre et soumets-la », il était libre, mais il n'était pas tout puissant. Il dépendait de Dieu, mais il a voulu être comme Dieu. C'est curieux de faire ce rapprochement, parce que c'est le contraire de l'attitude du bon larron, qui lui est tout proche de la mort, qui dépend totalement de la réconciliation et du pardon de Dieu, mais qui n'a pas voulu être comme Dieu. Alors, frères et sœurs, ce dimanche, la fête du Christ roi nous appelle une fois de plus à l'humilité. L'humilité dont nous avons grand besoin, vous comme moi, au moment où nous allons aborder tout ce temps de l'Avent, où nous chanterons aussi dans la nuit de Noël ce roi qui vient dans la crèche, ce Jésus, ce Dieu qui sauve. Alors accueillons le Seigneur dans sa présence humble et pauvre, qui est celle de l'Eucharistie, où il va venir régner, entre guillemets, par sa présence réelle dans chacun de nos cœurs, et faire de chacun de nous une véritable crèche vivante, c'est-à-dire un lieu d'accueil où nous pourrons dire, le moment venu, au fond de nous-mêmes, souviens-toi de moi, Seigneur. Quand tu viendras dans le mystère de Noël, inaugurer ton royaume. Amen.